Bonjour Florian.
Et bonjour Victor.
Et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui encore, nous allons parler de notre découverte personnelle de la semaine sur l'ornithologie, et c'est dans ce 8e épisode du Courrier de la Sterne. Alors, comment vas-tu pour cette 8e du Courrier de la Sterne?
Eh ben écoute, ça va très très bien et toi?
Bah ça va aussi très très bien. Toujours pour ce qui est de parler d'oiseaux, ça a le don de mettre de bonne humeur.
Ah bah surtout que cette semaine, on a un truc absolument incroyable, hein. Genre, on va parler de démocratie chez les oiseaux. Bah je sais pas moi, c'est extraordinaire tout ça.
Ouais, c'est quand même pas mal. Deux sujets à propos d'éthologie en tout cas,
ouais,
qu'on a à vous proposer.
Absolument.
Tu veux introduire le tien ou tu veux
Eh ben écoute, si tu veux, c'est l'étude, on va dire, qu'il fallait pas manquer cette semaine au niveau des oiseaux, puisque est sortie une étude de l'université d'Exeter, mesdames et messieurs, une étude réalisée par, donc je vais vous donner le nom des scientifiques, Alex Dibna, ainsi que toute son équipe, d'où figure aussi un Alex Thornton qui a été énormément au niveau de la communication de cette étude scientifique sur le chouka des tours. Et cette petite équipe de scientifiques, elle a démontré que les choukas, eh bien, votaient pour pouvoir s'envoler des dortoirs lorsque le jour arrivait. Alors, comment ont fait les scientifiques pour remarquer ça? Ils ont pris 6 groupes d'individus, donc 6 dortoirs, des dortoirs proéminents de 160 à 1470 individus, donc c'est quasiment en puissance de 10, et ils se sont rendus compte que, eh bien, les choukas s'envolaient à des périodes précises, lorsque, entre guillemets, ils atteignaient un espèce de consensus pour pouvoir s'envoler. Donc, comment les scientifiques ont déterminé tout ça? Eh ben, c'est assez simple. Ils sont allés enregistrer les oiseaux. Ils ont remarqué que les cris des oiseaux devenaient de plus en plus forts au fur et à mesure que l'envol était proche. Et une fois que tous les oiseaux avaient émis un cri, on va dire le plus fort possible, eh bien tous les oiseaux s'envolaient quasiment d'un seul coup en espace de quelques secondes. Et ça montrait que bah, les oiseaux réussissaient à atteindre justement un espèce de consensus pour s'envoler. Consensus qui n'est pas toujours atteint, puisque certains oiseaux, certains groupes, certaines journées tout simplement, eh bien il s'est révélé que les oiseaux n'atteignaient pas un consensus précis. Et du coup, eh ben, les oiseaux, les choukas, s'envolaient par petits groupes. Par-ci, par-là, qui décollait au fur et à mesure du temps. Et donc, pour voir si c'était bien ces cris qui étaient émis par les oiseaux qui incitaient les choukas à s'envoler, eh ben, ils ont juste réalisé une expérience très simple. Ils ont mis ce qu'on appelle des repasses. Donc, en gros, ils ont réaliser le cri du chouka, ils ont matérialisé le cri du chouka dans les arbres, et ils se sont rendus compte en matérialisant ce cri, eh bien, que les envols avaient lieu beaucoup plus tôt que prévu, alors que lorsqu'ils diffusaient le son du vent, eh ben, ces envols se passaient exactement à la même période. Il y a d'autres choses qu'ils ont signalées. Que la météo a une petite influence sur les envols. Donc une pluie ou des nuages bas ont tendance à retarder les départs en espérant justement avoir de meilleures conditions, mais ça, on va dire, c'est pas spécialement original d'avoir trouvé ça. On a lorsque l'intensité des cris augmente plus rapidement, donc puisque j'ai parlé d'intensité de cris, mais il faut savoir qu'il y a une gradation dans cette intensité de cris, eh bien les oiseaux partent beaucoup plus tôt. Et autre chose qu'il y a de spécifique vis-à-vis de tout ça, parce que on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ces envols sont significatifs, pourquoi les individus s'envolent en même temps. Eh ben l'équipe donc de Alex Dibna parle justement d'individus qui ont pour ont pour objectif de trouver de la nourriture beaucoup plus facilement, d'éventuellement trouver un partenaire beaucoup plus facilement. Ça évite aussi possiblement les conflits d'intérêts entre entre les différents individus. J'essaie de retrouver précisément ce que notre cher ami Alex Thornton disait vis-à-vis de ça. Donc maintenir la cohésion de groupe, réduire les risques de prédation, j'ai oublié d'en parler, mais réduire les risques de prédation évidemment, et favoriser la quête de nourriture pour avoir ainsi un meilleur accès à celle-ci. Donc voilà un peu l'étude qui est tombée et qui est, à ma connaissance, l'une des premières dans le monde ornithologique concernant ce genre de vote chez les oiseaux. Parce que autant je connaissais ça chez les abeilles, hein, j'en parlerai vite fait, mais chez les oiseaux, en tout cas pour moi, c'était une première.
Ben je pense que c'est une première mondiale, ouais. C'est assez fou.
Ah
C'est
oui,
assez fou
clairement,
quand même.
c'est assez dingue. J'avais lu une autre étude en 2016, enfin de 2016, qui parlait de pigeons ramiers. Donc cette fois-ci, on n'est pas du tout chez les corvidés, on est chez les Colombidae. Et il parlait justement du fait que lorsque l'oiseau, on va dire, le meneur du groupe, se trompait dans les itinéraires, celui-ci voyait sa réputation baisser au sein du groupe. Et à la faveur d'autres oiseaux qui avaient choisi deux meilleurs itinéraires. Donc je suppose que ça peut être le truc le plus proche que j'ai pu trouver vis-à-vis de cette étude sur les choucas. Parce que y a beaucoup de questions qui vont se poser. C'est qui décide réellement du départ? Parce qu'il y a un consensus, mais est-ce qu'il y a des voix qui sont beaucoup plus importantes que d'autres? C'est possible. Est-ce que ce consensus, il est atteint uniquement avec des groupes qui se connaissent ou avec des groupes qui, comment dire, qui se connaissent pas? Là, on est en hiver, donc on peut imaginer par exemple que ce soit des dortoirs avec des oiseaux à la fois sédentaires et à la fois migrateurs. Donc peut-être que le consensus est beaucoup plus facile à atteindre lorsqu'on a des individus qui se connaissent davantage de groupes familiaux plus que d'individus qui sont hivernants. Il y a énormément de débouchés qui s'ouvrent vraiment sur cette étude concernant les choucas que j'ai trouvé absolument formidable, quoi.
Bah, c'est vrai que c'est absolument formidable, et puis ça fait poser la question sur une quantité de comportements qu'on voit probablement pas avec des observations classiques, et c'est très très excitant pour la suite en fait. Je me dis qu'il y a encore une quantité de choses à découvrir comme ça chez les oiseaux et qu'on ne soupçonne pas du tout. S'il y a 3 ans on nous avait dit que les choucas faisaient de la démocratie pour pouvoir s'envoler. Je suis pas sûr qu'une grande partie de la communauté fan de l'ornithologie y aurait réellement cru.
Après, chez les corbeaux, bon, enfin, chez les corvidés,
Enfin, chez les...
c'est le genre de
Oui.
truc, tu te dis, ok, c'est normal que ça existe, d'une certaine manière, puisque ce sont des oiseaux très sociaux. Mais oui,
Oui, c'est sûr.
ça montre peut-être que ce genre de choses existe, notamment chez les psittacidés, chez les étourneaux, chez les sturnidés, chez d'autres espèces d'oiseaux, chez d'autres familles d'oiseaux, qui sait. Peut-être aussi chez les limicoles, hein, les limicoles qui ont l'habitude de se déplacer en banc. Donc peut-être que justement c'est quelque chose qui existe aussi qui existe là-dessus, quoi. Après on est très loin du niveau des comment dire des abeilles, parce que les abeilles donc lorsqu'elles ont besoin de chercher un nouvel endroit pour établir leur ruche, lancent en opération des éclaireuses, qui vont justement identifier les différents lieux potentiels pour installer la nouvelle ruche. Et elles reviennent ensuite au nid, enfin elles reviennent ensuite au nid, elles reviennent ensuite à la ruche, elles exécutent une danse plus ou moins complexe pour indiquer les directions, aussi bien direction cardinale que direction spatiale, donc c'est-à-dire distance entre les différents lieux, ce qui est absolument incroyable. Et c'est des comment? C'est des processus de démocratie qui peuvent durer des heures et des heures. Et il s'avère aussi que certaines abeilles sont capables d'influencer le vote d'autres abeilles. Je trouve ça
Ça, c'est absolument
absolument
dingue, ça aussi.
ahurissant. Donc on en est encore loin, hein, pour les choucas, mais quand même, ça ce sera à surveiller à mon avis lors des prochaines années, quoi, cette étude formidable qui comment dire, qui ont peut-être un bon avenir. Voilà.
Bah, effectivement, et on espère que de nouvelles recherches sur ce sujet-là pourront compléter ce genre de travaux.
Bah,
Mais
c'est l'exergue de l'étude. Alors je le lis, hein, je le lis en français. Nous souhaitons particulièrement comprendre comment les animaux peuvent surmonter leurs différences et parvenir à un consensus dans de telles circonstances. Donc c'est globalement ce qu'on a dit, c'est comment justement arrive ce processus de entre guillemets de démocratie, et par la suite est-ce qu'il y a d'autres facteurs impliquant ou limitant qui font en sorte que ces démocraties aient lieu ou pas, quoi. Du moins ces votes aient lieu ou pas. Mon cher Victor, désormais,
Eh ben écoute.
tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, après avoir parlé des choucas? Enfin, moi j'ai parlé des choucas, mais toi?
Ben aujourd'hui, on va rester dans le grand domaine de l'éthologie que tu as abordé aussi avec cette étude sur les choucas, et je vais vous parler d'une étude parue le 30 mars dernier, qui va porter donc sur le stratagème dit de l'aile cassée. Alors pour introduire un petit peu le sujet, les oiseaux vont avoir tout un tas de comportements, de stratégies pour pouvoir faire face à l'arrivée des prédateurs. On peut par exemple citer le cri qu'on appelle le tec-tec-tec des turdidés notamment, lors de leur fuite, qui permettent d'alerter toute une zone. On va par exemple avoir certains oiseaux de mer de la famille des Procellaridés, comme par exemple le fulmar boréal, qui peuvent régurgiter des substances sur les prédateurs. Beaucoup d'espèces d'oiseaux vont parfois attaquer directement les prédateurs qui arrivent. Les corvidés vont souvent pratiquer l'ouspillage, où ils vont, on va dire, harceler les rapaces qui passent assez proches d'eux, afin de se défendre. Et il y a une dernière technique de défense ou de diversion, qui, comme je l'ai dit, est celle de la technique de l'aile cassée, qui permet de simuler une blessure à l'aile, et qui est notamment connue chez le plus vieil killdeer. On en parlait tout à l'heure. Avant l'enregistrement.
En off, exactement.
Et donc, qui est connu chez cette espèce-là en particulier, mais qui est aussi présente notamment chez le plus vieux grand gravelot, pardon, par exemple, mais aussi chez beaucoup d'espèces de petits limicoles du littoral. Et c'était surtout dans ce petit groupe qu'on avait observé ce comportement-là. Mais dans l'étude dont que j'ai introduit tout à l'heure, qui est donc publié le 30 mars dernier par De Framont et ses collaborateurs, eh bien on a découvert, on s'est rendu compte que c'était en fait un comportement qui était beaucoup plus répandu que ce qu'on pensait au départ.
Ça, c'est intéressant.
En fait, en réalité, comment ont procédé les chercheurs déjà pour pouvoir se rendre compte de quelles espèces déployaient ce stratagème? En fait, ils ont tout simplement fait une recherche dans la littérature en remontant à des études publiées il y a plus de 60 ou 70 ans, à des livres qui avaient parfois plus d'une centaine d'années, et ils ont aussi distribué des questionnaires à des ornithologues, des écologues aviaires et des birders expérimentés,
Incroyable.
notamment. Oui, comme quoi parfois des études scientifiques peuvent aussi
Peuvent aussi
utiliser,
ressembler à
comment
des grands
dire,
sondages.
ouais, c'est ça exactement, utiliser finalement la connaissance des gens qui vont directement sur le terrain et des passionnés aussi. Et qu'est-ce qui a été trouvé avec cette recherche dans la littérature et ces questionnaires? C'est qu'au final, il y avait 285 espèces d'oiseaux différentes qui connaissaient et pouvaient utiliser
Combien?
ce stratagème. 285 espèces.
Pardon? Non.
Et 285 espèces qui représentent au total 52 familles différentes. Ce
Oh
qui
la
est
vache.
absolument incroyable. Donc ça remet en question totalement ce qu'on pensait savoir sur ce comportement-là. Et c'est donc un trait qui est beaucoup plus présent que ce que pensaient les chercheurs auparavant.
Ah bah c'est clair.
Dans un deuxième temps, les auteurs ont ensuite réalisé un arbre phylogénétique pour essayer de voir, au niveau des divergences phylogénétiques, voir quel groupe présentait ce comportement, et il se trouve, et c'est donc ce que l'arbre phylogénétique a montré, que ce trait a évolué de manière totalement indépendante plusieurs fois chez les oiseaux. Alors, il n'est pas précisé combien de fois dans l'étude, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé, mais si vous voulez essayer d'aller voir, il y aura bien évidemment le lien qui sera en description pour compléter ce que je dis là, parce que je survole, c'est une étude assez longue, mais vous pourrez bien évidemment aller voir aussi ce qu'il en retourne. Donc après avoir réalisé ça, dans un troisième temps, les auteurs ont réalisé des analyses statistiques pour pouvoir savoir les traits d'histoire de vie qui seraient corrélés avec la présence de ce stratagème. C'est-à-dire qu'ils ont pris différents traits caractéristiques de l'espèce qui touchent à peu près tout ce qui va entourer la vie de l'espèce, on va dire. Ça peut être stratégie de reproduction, ça peut être l'emplacement sur la planète, ça peut être durée d'ensoleillement moyenne, enfin, ça peut être absolument n'importe quoi qui va toucher de près ou de loin à la vie de l'oiseau. Ils ont analysé 18 de ces traits différents. Et sur les 18 traits, ils en ont trouvé 8 qui semblent tout à fait être corrélés. Donc, ce qu'on observe avec ces 8 traits, c'est qu'on constate que les espèces qui vont le plus présenter ce comportement sont celles qui se reproduisent le plus loin de l'équateur, dans des environnements qui vont être les plus denses, avec des périodes d'incubation les plus courtes, et un nid qui va être relativement peu caché dans l'environnement.
Il y a autant de corrélations.
Oui, tout à fait. Et c'est pas fini, parce qu'il y a aussi les espèces où un seul parent va couver les œufs, les espèces qui vont houspiller les prédateurs, et les espèces qui vont avoir soit plusieurs nids, soit s'occuper de plusieurs nichés en même temps. Et parmi donc ces 8 critères différents, et ils ont remarqué que c'était la latitude de présence de l'oiseau qui était la plus fortement corrélée avec ce comportement, c'est-à-dire les oiseaux qui sont les plus loin de l'équateur finalement.
Incroyable.
Alors, ils ne répondent pas précisément sur pourquoi c'est ce critère-là qui va être le plus corrélé avec la présence du comportement.
Mais je pense qu'ils n'en savent rien en fait.
Ben, ils posent diverses hypothèses, c'est-à-dire qu'ils disent peut-être que celles les plus éloignées de l'équateur vont avoir une modification au niveau des périodes d'ensoleillement, sachant que c'est un stratagème qui est utilisé uniquement pour les prédateurs de jour, évidemment, si on ne voit rien la nuit. C'est un stratagème qui sert un peu à rien, quoi. donc, ils supposent que c'est peut-être la durée d'ensoleillement. Ça va peut-être jouer aussi sur les types de biomes qui vont être présents loin de l'équateur. Mais c'est assez flou. Et les auteurs eux-mêmes, évidemment, comme tu dis, n'en savent pas grand-chose. Et on peut poser que des hypothèses, finalement. Et voilà, il conclut ensuite en disant que il est peut-être intéressant de réaliser des études plus complètes sur d'autres comportements qu'on pense peut-être centrés autour d'un petit groupe, comme on pensait ici, et qui seraient peut-être vachement plus répandus, au final, au sein de la faune aviaire.
Mais quelles sont les espèces, justement, ou les groupes d'oiseaux qui sont concernés par
Ben, les 285 ne sont pas cités. Je sais que Il citait notamment les groupes qui ne présentaient pas ce comportement. Il me semble que les trogons ne présentent pas ce comportement, que les ardéidés ne le présentent pas non plus, c'est-à-dire les échassiers, en fait. Mais je ne sais plus... Ah si, je vais avoir les groupes ici. C'est évidemment, comme ils le disent, très très présent chez les caradriiformes, donc les pluviers, les limicoles, donc les barges, les avocettes, etc. Mais il parle aussi des sylvidés, donc les fauvettes, les cysticolidés, donc les cysticoles, et d'autres familles qu'on va pas beaucoup avoir en Europe, notamment les ostéropidés, donc les ostéropes, qui vont plus être présents, notamment en Océanie, par exemple. Les pycnononidés, qui je crois que c'est les bulbules, si je me trompe pas, mais je ne suis pas sûr. Possiblement aussi, apparemment les canards et les oies, les anatidés, présentent aussi ce comportement.
Ok.
Et d'autres groupes aussi. Bon, je ne vais pas en faire la liste. Il y a 52 familles au total, ce qui est absolument colossal. Mais on peut citer aussi notamment les tinamidés, donc les tinamous, qui vont présenter aussi ce comportement. Tout ça pour dire que c'est vraiment extrêmement répandu et
diversifié. Parmi
les c'est ça, c'est très répandu chez beaucoup de familles. C'est la diversité de familles qui présentent ce comportement est énorme et c'est autant présent chez les oiseaux qu'on peut considérer comme les plus basaux entre guillemets. Et aussi, c'est aussi autant présent chez les oiseaux qu'on peut considérer comme les plus dérivés par rapport au clade les plus basaux, justement, ça fait redite, mais c'est le cas.
Donc, c'est super intéressant. J'avoue, je m'attendais pas à ça.
Écoute.
Quand tu m'as présenté le sujet, je me suis dit, ah ouais, on va parler du plus vieux qu'il dit.
Et non, en réalité, écoute, il fallait bien faire une petite surprise au final. Et c'est, effectivement, c'est colossal et c'est assez insoupçonné, finalement.
Ah bah c'est clair. Là, deux études aujourd'hui qui en ressortent encore du côté insoupçonné du monde des oiseaux.
Ah là. Tout à fait. On n'a pas fini de faire de belles découvertes, hein, je pense.
Oh bah non. Et les prochaines découvertes, du coup, elles seront la semaine prochaine. Merci Victor.
Merci aussi à toi, mais pas de soucis.
Et puis rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On reviendra comme d'habitude sur notre fait étonnant qu'on a découvert dans le monde des oiseaux lors de la semaine qui arrivera. Mesdames et messieurs, bonne journée à tous, bonne journée à toutes, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine tout le monde.